Voilà, bonjour à tous. On est heureux d'être avec vous ce matin encore pour pouvoir célébrer Jésus. Ce matin, je crois qu'il est important que nous fixions nos regards sur la grâce de Dieu et le fait que notre Dieu règne. Peu importe le résultat de ce qui peut se passer au niveau de la politique du monde, celui qui règne, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qu'on veut chanter ce matin. On veut prendre ce premier chant qui dit « Quelle grâce !» On est tous rassemblés, alors pas physiquement ce matin forcément, on est tous chacun chez nous, peut-être devant le petit déjeuner, peut-être dans notre canapé, peu importe l'endroit où on est rassemblés parce que tous, on a été sauvés, on a été graciés par celui qui a donné sa vie pour nous. Et c'est lui qui nous unit ce matin et c'est lui que nous voulons célébrer dans ce lieu. On commence avec ce chant « Quelle grâce !»
Nous sommes la rassemblée, tous étrangers, nés du même sang. Enfants de toute nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou, amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oh. Ne sois pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou, amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oh.
Tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus.
Ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent aux créations, que ce qui respire entonne ce chant.
Tous ces enfants,
main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu. Son nom est Jésus, ouvrez-vous,
ouvrez-vous,
ouvrez-vous, porte éternelle, que la louange s'élève et les murs s'effondrent aux créations, que tout ce qui respire entonne ce chant, tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus.
Oh, 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 oh.
chantons Jésus.
Jésus, notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, que son règne vienne.
Et Seigneur, on veut t'inviter à régner, Père. C'est vrai, nos cœurs peuvent être déstabilisés, troublés par tout ce qui se passe, Seigneur, mais tu nous rappelles et tu nous as invités dans ta parole à ne pas avoir le cœur troublé, mais de croire en toi. Tu es celui qui règne au-delà des circonstances. Si le monde s'effondre demain, toi tu demeures sur ton trône, Jésus. Et nos vies sont dans le creux de tes mains. Nos noms sont inscrits dans ton livre. Et c'est ces choses qu'on veut repasser sur nos cœurs ce matin, Père. Tu es le Dieu qui règne. Il n'y en a pas d'autre que toi, Jésus. Et on veut te célébrer. Et encore ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, me voici. On ne connaît pas toutes les circonstances, on ne sait pas ce qui sera fait demain. Mais tant que j'ai de l'air pour respirer, tant que j'ai le souffle de vie, je veux répondre au Seigneur ce matin. Me voici, je veux consacrer ma vie à toi.
Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent.
Rends-moi sensible.
Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi.
Rends-moi sensible.
Me voici.
Envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux.
Me voici.
Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi.
Je veux déclarer.
Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent,
je chanterai.
c'est l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je réponds, je veux déclarer. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si le flou m'inonde, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi.
Pendant que le piano continue, est-ce que là où nous sommes, nous pouvons fermer juste les yeux un instant et dire, Seigneur, façonne-moi. Et dire, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, on veut te laisser plus de place dans nos cœurs. On se rend bien compte, Seigneur, que bien des fois, on occupe beaucoup de place dans nos propres vies, Père. Nos priorités, nos envies, nos décisions. Mais nous avons besoin, Seigneur, d'apprendre à te laisser régner, à te laisser gouverner, à te laisser conduire. Tu as créé le monde, Seigneur, tu n'as pas attendu après notre avis. Tu sais ce que tu fais, Jésus. Et Seigneur, ce matin, nous voulons simplement encore nous aligner avec ton cœur et nous laisser conduire par toi et nous laisser façonner selon ce que toi, tu as décidé. Ô Seigneur, prends plus de place ce matin dans nos cœurs, Jésus. Alléluia, Père. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre que toi, Jésus. Alléluia. On veut chanter ce matin que ton nom est merveilleux, que ton nom est glorieux, que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, tu es le roi de l'histoire. Et c'est toi que nous voulons célébrer encore ce matin. Ô Jésus.
Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici là te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage.
Jésus, merveilleux nom. Thank you. l'alpha et l'oméga, que tu es celui qui règne, Jésus. On veut te célébrer ce matin encore, Père. À toi la gloire, Jésus. Ce matin, on a le privilège d'avoir avec nous notre couple missionnaire Klaus et Yolande Schust. Et on va procéder à une interview un petit peu. Ils vont nous raconter un petit peu ce qui se passe là-bas sur le champ. C'est Michel maintenant qui va s'approcher avec Klaus et Yolande pour cette interview. Et on va se réjouir de l'œuvre que Dieu fait en Côte d'Ivoire.
Bonjour à tous. Nous voulons saluer Klaus et Yolande, donc missionnaires en Côte d'Ivoire.
Bonjour.
Et bonjour. Ma première question sera celle-ci. Comment est-ce qu'on devient missionnaire? Quel est votre parcours? Qu'est-ce que c'est que votre cheminement? Vous êtes membre à l'EPI depuis bien des années maintenant. Vous avez travaillé dans différents secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, vous êtes missionnaire en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, juste nous expliquer votre parcours et votre cheminement?
Je laisse le micro à madame.
Pour moi, j'ai été sensibilisée à la mission depuis mon enfance à cause d'un parent de la famille qui avait été un évêque missionnaire au Cameroun, qui a fait beaucoup de bien au pays, et d'un ami aussi de la famille du village qui était missionnaire à Djibouti. Et puis bon, voilà. Et puis finalement... À l'âge de 19 ans, j'ai vraiment été interpellée par la parole de Dieu et je cherchais la vérité et j'ai réalisé que la vérité était là. Et il y avait beaucoup de tourments dans mon cœur, je cherchais Dieu et j'ai rencontré Jésus comme mon sauveur, comme lui qui a pris ma condamnation et qui m'a réconciliée avec Dieu. Et ma vie a pris un autre cours. J'avais entendu la parole de Dieu pour la première fois au cours biblique universitaire. Et puis, le Seigneur m'a dirigée. Peut-être 2 ans après, je suis venue à l'église évangélique de Pentecôte. Et puis, j'ai servi comme je pouvais, avec toujours l'évangélisation des enfants que Dieu m'avait mise à cœur. Je faisais toujours des clubs d'enfants. Au bout de 10 ans, je suis partie à l'école biblique, parce que j'avais à cœur de mieux connaître Dieu, d'être mieux enseignée. Et suite à cela, j'ai fait les études d'infirmière pour pouvoir partir en mission. La porte ne s'est pas ouverte tout de suite, mais j'ai rencontré mon mari. Et puis bon, on s'est mariés. J'avais déjà 38 ans. On a eu 2 enfants. Au bout de 2 ans de mariage, on avait nos 2 enfants. Je travaillais en tant qu'infirmière. Et puis bon, maintenant on était installés. La mission, ça prenait un petit peu... C'était mis de côté un petit peu. Je ne voyais pas comment on pourrait partir. Quand nos enfants avaient 12-13 ans, Dieu nous avait demandé, on habitait au village, Dieu nous avait demandé de déménager à Strasbourg pour travailler dans un quartier sensible, au Neuf. Et là, moi, je faisais des clubs d'enfants, aidé par mon mari. Lui, il était engagé dans un coffee bar avec la jeunesse délinquante. Et c'est dans ce cadre-là qu'en tout cas, je me suis posé la question, est-ce que mon désir de partir en mission, est-ce que ça venait de Dieu ou est-ce que c'était un désir personnel? Et si ça venait de Dieu, eh bien, j'étais à côté de ce que Dieu avait, à côté de l'appel de Dieu. Et je devais rendre compte un jour au Seigneur. Et j'en ai pas parlé à mon époux, mais quelques temps après, il se réveille un matin en disant, on ira en mission en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était bien clair et bien net. Nous occuper des enfants de rue.
Avant d'aller donc en Afrique, vous avez fait un détour aussi par le quartier du Neuf, un quartier sensible de Strasbourg. Et vous pouvez nous expliquer aussi un petit peu comment vous avez travaillé sur le Neuf?
Ben, le club d'enfants dont mon épouse parlait, c'était justement au Neuf. À l'époque, nous habitions à Marlenheim et c'était la période, il y a eu le génocide en Rwanda, il y a eu la guerre en Bosnie et toujours les femmes et les enfants qui sont les premières victimes. Et on se demandait comment on peut aider. On ne voulait pas juste bêtement envoyer de l'argent parce qu'on savait que cet argent, et très peu d'argent arrivait finalement vers ceux qui avaient vraiment besoin. Le reste passait dans les grandes voitures et tout ça. Et on demandait au Seigneur comment faire. Et en priant, le Seigneur m'a dit clairement, va prêcher l'évangile. Donc je me suis adressé à l'époque à notre pasteur Daniel Briand et il m'a dit, allez en Neuf. Il y a un travail qui avait commencé le phare. Et nous nous sommes engagés au phare et au bout d'un an, nous avons pris la responsabilité du club d'enfants et on fait l'évangélisation dans le quartier, l'animation de rue. On avait un local dans lequel on recevait les enfants quand ils faisaient mauvais. On faisait du bricolage, on chantait, on racontait l'évangile et on mangeait les bons gâteaux. C'est ce qui ramenait les enfants.
Donc, on comprend bien que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'en va pour entrer en mission en Afrique. Il y a des cheminements, un parcours intermédiaire et donc c'est un temps de formation que vous avez vécu. Vous avez aussi été en Angleterre, je crois bien, pour une formation missionnaire.
Oui, oui, c'est-à-dire, mon épouse, elle vient de relater le fait qu'un matin, c'est comme si j'entendais dans ma tête la voix de Dieu qui me dit « Abidjan, enfant de rue ». Et tous les deux, on a réagi là-dessus. On a cherché comment on peut partir. Les assemblées de Dieu n'avaient plus de missionnaires en Côte d'Ivoire. Ils ne pouvaient pas nous envoyer. Nous avons cherché une mission. Nous avons trouvé une mission qui était... La base d'envoi était implantée à Itzar, près de Mulhouse. Hein. Et eux, ils nous ont envoyés pour la formation en Angleterre pendant 4 mois, où nous sommes allés avec nos enfants, une formation en anglais. Et à la suite de ça, on voulait partir en Côte d'Ivoire.
Alors, il y a ce qui se passe dans notre cœur, un appel intérieur à partir en mission, mais il y a aussi de la part de l'Église qui vous accompagne, tout un cheminement. On voit un petit peu comment Dieu vous a utilisé dans le cadre des enfants. Et c'est d'ailleurs ce qui est devenu votre projet en Afrique. Donc, pouvez-vous parler un petit peu de ce projet? C'est quoi votre public là-bas? C'est quoi votre mission exactement? Comment est-ce que vous vivez votre mission sur le terrain?
Bon, quand nous sommes partis, dans un premier temps, nous sommes partis, pas en Côte d'Ivoire, mais en Sénégal, parce que la Côte d'Ivoire était encore fermée pour nous. Et au Sénégal, nous avons travaillé avec les adolescents, nous avons formé les adolescents, ce qui ne se faisait pas du tout dans les églises là-bas. Les adolescents, bon, on s'occupe des adultes, mais pas des adolescents, on fait à peine l'école du dimanche. Et en quittant au bout de 4 ans, les pasteurs nous ont dit, vous avez allumé un feu. On ne veut pas que ça s'éteigne. Montrez-nous comment faire. Et à la suite de ça, nous sommes revenus en France pendant 1 an et demi, le temps que tout s'est préparé, et nous sommes partis en janvier 2011 en Côte d'Ivoire pour nous occuper des enfants de la rue.
J'ai envie de vous poser une question. Quand on est en mission, il y a des moments de joie, il y a des moments aussi parfois de déception. Quelle est votre plus grande satisfaction sur le terrain missionnaire?
Ben, on s'est concerté hier, hein. Et finalement, notre plus grande satisfaction, c'est que la vision a été saisie par d'autres, que d'autres entrent dans ce travail. C'est vrai, les enfants, ils se sont approchés du Seigneur, certains sont convertis, ils sont engagés aujourd'hui dans l'Église, mais le fait que d'autres ont saisi la vision fait que maintenant, nous en sommes âgés maintenant, le travail va continuer avec d'autres. Et c'était ça notre prière dès le début. Et c'est ça notre plus grande satisfaction, de voir des gens s'élever dans l'Église et de voir, depuis 2 ans, l'Église nationale, les Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire représentent quand même quelques 2 millions de chrétiens avec quelques 1 500 églises. Hein. L'Église nationale a saisi la vision de l'évangélisation des enfants. Et ça, je pense, notre présence dans les pastorales et tout cela a largement contribué à cette prise de conscience.
Je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi des moments de déception, des moments de découragement. C'est quoi la vie d'un missionnaire comme ça aussi sur le terrain? Quelle serait votre source de découragement?
On investit beaucoup de soi-même et parfois le résultat n'est pas là. Aussi, les églises ne réagissent pas. Là encore, on nous a dit avant de partir, l'œuvre pourra continuer si les fonds continuent à venir de l'Occident. Sinon, ça va s'arrêter. Bon, c'est un peu décourageant. Mais nous avons appris que Dieu a les moyens, qu'on n'a pas compté sur les hommes. Il y en a qui se sont levés, qui ont donné, qui nous ont soutenus. Ce n'est pas nous qui leur avons demandé, c'est Dieu qui leur a mis à cœur. Et je pense que c'est l'œuvre de Dieu qui a commencé en Côte d'Ivoire. Et ça va continuer. Il y a toute une équipe qui se lève là, qui a la même passion, la même foule que nous. Maintenant que nous sommes partis, ils peuvent vraiment prendre toutes leurs mesures. On n'est plus là. C'est eux qui doivent diriger, c'est eux qui doivent prendre les responsabilités. Voilà. Mais il y a aussi le problème financier. Et souvent, dans le travail social, c'est ça qui manque, les finances.
Alors tu le disais, Klaus, vous commencez à prendre de l'âge. Comment est-ce que vous êtes dans un temps, dans une saison de transition et de transmission? Comment est-ce que vous vivez cette saison, ce temps?
Pour le moment, bon, on se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, on était très fatigués quand on est revenus. Ça fait 2 mois maintenant qu'on est en France. On essaye de se réadapter, de s'adapter au nouveau contexte. Mais sur notre cœur, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas enfanter quelque chose et puis ensuite laisser ne plus s'en occuper, c'est pas possible. Donc on va continuer à soutenir cette œuvre, à prier, à donner des conseils. On va essayer de créer une association ici pour lever les fonds, pour pouvoir les soutenir financièrement. Mais on va régulièrement retourner parce qu'on a eu l'occasion, l'opportunité de enseigner dans les instituts bibliques et de donner un cours sur la prise en charge des enfants en crise, sur la prise en charge des traumatismes, comment déceler, comment aider, et des cours qui sont très appréciés par les étudiants pasteurs. Et donc eux, ils sont sensibilisés à ce problème et ils ont déjà des outils pour savoir comment aider, comment remédier et aussi comment conseiller toutes ces personnes qui viennent demander de l'aide et qui ont été traumatisées dans leur enfance avec des traumatismes non résolus parce que personne ne s'en est occupé. Donc c'est un cours qui est précieux. On continuera à donner et donc retourner régulièrement en Afrique.
Et donc vous êtes régulièrement invité dans les écoles bibliques pour partager sur cette formation.
Il y a les Assemblées de Dieu, ils ont 4 instituts théologiques et formation pastorale. Et nous sommes principalement invités dans le premier institut qui a été fondé par les missionnaires français à Kadachi. Et c'est d'ailleurs le directeur de cet institut qui était à l'époque le président des Assemblées de Dieu, qui nous a reçus quand nous sommes arrivés. Il ne savait pas d'où est-ce qu'on sortait. Michel l'avait appelé avant notre départ. Hein, et depuis, il nous invite, depuis 2015, on va régulièrement une fois et parfois même 2 fois par année, donc des classes différentes, pour enseigner ce cours, un cours de 30 heures. Hein, et c'est un temps précieux. Et j'ai calculé bien, on a formé quelques 400 étudiants pasteurs, hein, dont certains ont fini leur formation sans en activité sur le champ. Et on a formé les épouses des pasteurs aussi, également, qui participaient au cours. Et quelques collaborateurs, nos propres collaborateurs et d'autres, les pasteurs qui étaient déjà en activité.
Moi, j'aime bien cette idée d'allumer une flamme. Et je crois que dans ce sens-là, le Seigneur s'est servi de vous pour allumer une flamme. Et je voudrais vous remercier au nom de l'EPI, du modèle, de l'exemple que vous êtes. L'âge n'est pas un obstacle, loin de là. Dieu peut se servir de n'importe qui, de chacun, de chacune d'entre nous. Et en tout cas, merci pour votre exemple. Pour terminer, est-ce que vous avez un sujet de prière qui vous tient particulièrement à cœur et pour lequel nous pourrions prier?
Oui, je souhaiterais qu'on prie pour que le travail qui a été commencé puisse continuer avec la vision que nous avons donnée et qui est reprise par ceux qui ont été nos collaborateurs depuis le début, mais que personne ne puisse s'interposer pour dévier ce travail, pour dévier cette œuvre à un profit quelconque. Nous voudrions vraiment que ça continue à être dirigé pour la restauration des enfants en crise, des enfants de la rue. Voilà.
Je crois que vous avez aussi une image, en tout cas une diapo, pour montrer la maison dans laquelle que vous avez.
Oui, si on peut envoyer.
Peut-être l'envoyer. Ça peut donner une idée.
C'est un court PowerPoint. Je ne vais pas trop commenter, mais il y a quelques explications qui sont écrites. Si on peut lancer, voilà. Ça, c'est la maison que nous avons ouvert en janvier cette année. Ça fait 2 ans qu'on était sur cette, 13 ou 3 ans même, qu'on était sur cette maison. Et enfin, on a pu l'ouvrir. Tu passes à la photo suivante, s'il te plaît. Ça, c'est un aperçu d'un groupe. Ils sont 12 là. Des garçons de 7 à 16 ans. Avec des contextes très différents. Des enfants souvent très abîmés moralement, spirituellement, physiquement aussi. Il y a eu beaucoup d'abus, de toutes sortes d'abus. L'homme que vous voyez sur ma droite, c'est Hervé. Il est photographe professionnel et c'est notre collaborateur depuis le début. Un fidèle collaborateur qui a vraiment à cœur les enfants et qui ne craint pas de se mouiller les mains. Là, on m'a appris il y a 2 jours que des enfants qu'il traitait poil à gale, à main nue, il les lavait avec les produits. Il faut mettre les gants, mais lui, il n'a pas eu peur de se faire, qu'il risque d'être contaminé. Et c'est vraiment des gens qui ont un cœur pour ce travail et qui veulent continuer. La suivante, s'il te plaît. Voilà, les activités, le loisir. Vous savez, ça semble rien, coloriage. Mais pour les enfants qui ne sont pas scolarisés, c'est un exploit de faire un coloriage correct. L'autre photo à côté, vous voyez, ils jouent avec des Lego, avec des puzzles, des choses qui... Les enfants de la rue ne jouent pas. Ils ont à lutter pour leur survie. Et là, ils peuvent se poser, ils peuvent redevenir des enfants. On soigne ceux qui sont blessés. Si c'est plus grave, on les envoie à l'hôpital. Et il y a une église qui prend en charge les soins. Et ils peuvent se laver, ils peuvent laver leur linge. Et surtout, ils entendent l'évangile. Et c'est ça le cœur de tout notre travail, c'est d'annoncer l'évangile. La suivante, s'il te plaît. Voilà, la condition de vie. Voilà, comment ils dorment, ces enfants. Ces 4x4, là, en bas, ils dorment sous le 4x4. Pour être à l'abri, le propriétaire ne sait pas que les enfants dorment en dessous. Donc, c'est vraiment un danger, mais là, ils sont à l'abri de regard de ceux qui pourraient les agresser la nuit. La suivante. Là, on parle des formations. Sur ma gauche, c'est donc la formation pastorale, hein, l'Institut théologique pastoral. Et une nouveauté, notre mission aux États-Unis nous a demandé d'assurer des cours en français via Zoom pour une équipe dans un hôpital chrétien, un hôpital qui s'appelle Cure, hein, et qui s'occupe des enfants handicapés. Et c'est une équipe constituée principalement de chrétiens et qui ont eu ce même cours également via Zoom cette année au mois de juin. Pendant 2 semaines, 3 heures par jour, on a enseigné. Voilà la suivante. Ce sont les garçons qui sont encore chez nous à la maison. Celui en blanc, actuellement, il est plus dans la maison parce qu'il a trouvé un travail dans une autre ville à 10 kilomètres. Mais les deux, là, en rouge, c'est Valérie et l'autre, c'est Othniel. Ils sont convertis et baptisés, tous les deux. Et Valérie est vraiment engagée dans l'église. Othniel est engagé dans le sport. Et ils avancent, ils ont pris les cours de soir. Valérie, il a arrêté au CE1 parce que son père n'avait plus l'argent pour payer l'école. Et actuellement, il est en cinquième. Il a fait du CE2 jusqu'en cinquième, en cours de soir. Et Othniel, il n'a jamais été à l'école, il est maintenant en sixième. Voilà, et là, une dernière photo, peut-être encore. Voilà. Nous avons à l'extérieur, à 70 kilomètres, acheté un terrain. Et les questions de terre là-bas, c'est toujours très délicat. Et on a mis presque 2 ans pour avoir l'attestation villageoise régulière, correcte. Et c'est cet homme en bleu là qui est le chef cantonal qui lui nous a fait enfin le bon formulaire avec lequel nous pouvons enregistrer au cadastre le terrain, un terrain de 4000 m² sur lequel nous voulons construire un centre pour les enfants qui veulent quitter la rue, pour les mettre là-bas, pour leur donner une formation spirituelle, scolaire et professionnelle. Voilà, tu peux jeter voilà un aperçu du terrain. Actuellement, quelqu'un a cultivé les maïs. Il y a mon épouse avec Madame Cho, qui est notre bras droit, avec son mari, ils veulent reprendre ce travail. Son mari est le directeur international pour l'Afrique de la Fraternité des Prisons. Et voilà un autre aperçu. Pour l'instant, c'est la brousse, mais c'est un grand terrain, 4000 m². Voilà.
Merci beaucoup pour toute cette présentation, Klaus et Yolande. Quel défi. On ne veut pas vous laisser partir comme ça. On va simplement, vous qui êtes derrière vos écrans, nous qui sommes ici, les quelques-uns, l'équipe technique, nous voulons prier pour vous et demander au Seigneur de vous accompagner dans cette prochaine étape. C'est donc une phase de transmission et une phase de transition pour vous. Merci pour ces projets. On espère vraiment que chacun, chacune pourra se joindre à la prière et pourquoi pas aussi se laisser interpeller d'une manière ou d'une autre.
Juste un dernier sujet de prière qui conditionne les prochaines semaines qui vont se passer. Normalement, je devais partir mardi pour retourner en Côte d'Ivoire. Je l'ai annulé le vol. à cause de la situation politique en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections contestées, il y a eu des soulèvements, il y a eu des meurtres et tout. Et mes collaborateurs, ils me disent, surtout ne viens pas actuellement. Tu es blanc, tu es en danger. Eux-mêmes, ils osent à peine sortir chez eux. Donc, j'ai reporté mon départ à après Noël. Donc, priez pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas de paix, il est difficile de travailler.
Eh bien, on va le faire tout de suite. Seigneur, nous te remercions pour le modèle, l'exemple de Klaus et de Yolande qui sont partis sur le champ missionnaire. Nous ne sommes pas tous appelés à partir, mais nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à te donner notre vie et à te servir comme ils nous l'ont expliqué. Nous prions pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, pour que des conditions favorables soient là afin d'annoncer encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci de renouveler Klaus et Yolande dans leur santé, de leur permettre de se reposer et de trouver un souffle nouveau pour cette prochaine étape. Que le pays trouve la paix, Seigneur, merci. C'est toi, comme le disait le pasteur Raymond Pierre tout à l'heure, qui nous tient au creux de ta main. Tu as un plan pour chacun, pour chacune. Tu as un plan aussi pour cette mission, qu'elle puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Pour le plus grand bonheur de ses enfants, qu'ils puissent sortir de la rue, trouver aussi un sens à leur vie, un avenir donné par toi. Merci. Amen. Merci beaucoup.
Voilà quelques annonces avant de laisser toute la place au message et à ce que Dieu a mis sur le cœur de Pierre Samuel pour cette série sur les sept signes. Donc quelques infos. Donc vous pouvez nous contacter sur contact@epi-strasbourg.eu. Le mail s'affiche. Vous pouvez nous contacter aussi au 06 28 13 58 51. Attention, il n'y a pas de fixe au secrétariat. Le secrétariat n'est pas ouvert. Donc vous pouvez nous joindre sur le portable. On a notre réunion de prière jeudi soir. On a une bonne réunion de prière ce jeudi. On était une quarantaine de personnes à se tenir devant Dieu, à chercher la face de Dieu ensemble. Et vraiment, on veut vous encourager à venir vivre ces moments de combat. Vous savez, il y a des batailles qui se remportent sur nos genoux. Alors là, on vous attend sur Zoom. On se voit de 19h à 20h15. Le lien, vous le trouverez sur le site internet de l'EPI. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez participer avec nous à ces moments qui sont important. Également sur le site internet, vous pouvez nous soutenir. Donc comme d'habitude, avec un don régulier, un don ponctuel, peu importe les moyens, tout est à votre disposition sur le site. Et surtout pour vous qui nous suivez sur YouTube, vous pourriez vraiment nous aider. Il y a une petite cloche qui est dessinée certainement en bas à gauche ou en bas à droite de votre écran. Cliquez dessus, abonnez-vous à la page, ça nous aide aussi à être référencés sur YouTube. Donc c'est juste un clic, mais ça nous aide vraiment. Donc s'il vous plaît, merci de le faire pour ceux qui veulent bien. Pierre Samuel, on te laisse toute la place.
Amen. Ça va ? Ça va ? Les quelques personnes qui sont là pour la technique, qui nous permettent de respecter les gestes barrières et qui nous permettent de respecter les normes qui nous sont imposées pour la sécurité de tous. On est quelques-uns là et on a beaucoup de joie d'être ensemble malgré tout. Mais je sais que vous êtes beaucoup derrière votre écran. On regarde un petit peu, on vous suit. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos encouragements. C'est tellement bon de savoir que, eh bien, on est peut-être en distance, mais Dieu reste le même. Amen. Et Dieu n'a pas fini, Dieu agit encore aujourd'hui. Et je crois que dès les chants, il y a eu des messages, il y a une direction dans laquelle Dieu veut nous amener. Je crois qu'à travers le témoignage de Klaus et Yolande, on a pu comprendre combien Dieu est fidèle malgré les moments difficiles. Et on comprend ensemble que Dieu a un projet. Dieu a quelque part un endroit où il veut nous amener. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse préparer nos cœurs ce matin à entendre ce que Dieu a à nous dire. À se préparer et dire, mais Seigneur, je ne veux pas que ce moment que je vais passer ce matin puisse être un message comme si j'entends tout le type d'informations. Mais je veux que ce soit absolument quelque chose dont j'ai besoin. Je veux que ce soit un message qui va percuter mon cœur. Je veux que de ce message, je puisse en tirer des principes pour avancer parce que j'ai besoin de progresser et de te connaître encore plus. Et je vous propose qu'on puisse ensemble fermer les yeux, préparer nos cœurs, et dire, Seigneur, voilà, je suis prêt devant toi. Vous êtes d'accord avec ça ? On y va ensemble. Seigneur, on est devant toi, complètement dépendant de ta grâce, du fait que tu règnes, du fait que tu es au-dessus de tout. Et encore ce matin, Le désir de nos cœurs, c'est vraiment de dire, mais on a besoin de toi. On a besoin de ta présence, on a besoin de ta vie, on a besoin que tu nous accompagnes. Vu les situations, nous avons besoin de toi. Et ce matin, tu es là, présent. Derrière les écrans, tu es présent dans les maisons, tu es présent dans ce lieu, tu es présent parce que tu es vivant encore aujourd'hui. Et dans cette matinée, je te prie que, à travers ce qu'on va partager dans le message, on puisse aller de l'avant, on puisse progresser, on puisse aller encore là où toi tu as prévu qu'on aille. Seigneur, je te bénis. Merci pour cette matinée. Merci encore de nous permettre de vivre ce temps ensemble. Et merci de bénir les uns et les autres. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, j'ai beaucoup de joie d'être avec vous ce matin. Et de pouvoir partager la suite des messages sur lesquels on est en train de travailler ensemble avec l'équipe pastorale. Et le titre de ce message, c'est « Les sept signes qui stimulent notre foi ». On en a eu chaque dimanche, et si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter, je vous invite à retourner sur le site, sur la page page YouTube de l'église de l'Épi, et de réécouter les messages. Et je sais que celui de la semaine dernière, les autres aussi, mais celui de la semaine dernière nous parlait de Jésus qui va marcher sur les eaux, et comment Jésus va rencontrer les disciples et les miracles qu'on a vus. Et Anne nous a boosté, nous a encouragé à travers le message de la semaine dernière. Alors j'aimerais continuer sur cette série. Et on va parler aujourd'hui d'une situation assez complexe, d'un homme qui est aveugle de naissance. Et que Jésus va guérir d'une manière complètement improbable. Un truc bizarre, que si on aurait dit à Jésus « fais ça », peut-être qu'on n'aurait jamais compris pourquoi il a fait ça. Mais Jésus va guérir cet aveugle, ouais, vraiment. Bon, je vous propose qu'on lise le texte et puis qu'on découvre la façon dont Jésus va guérir. C'est au verset 6, donc c'est Jean 9, verset 6. Si vous avez vos Bibles, eh ben, prenez-le, c'est l'occasion. Et si vous n'avez pas vos Bibles, eh bien, c'est affiché. Jean 9, verset 6. Jésus, le texte nous dit, « Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyer ». L'aveugle alla se laver, et à son retour, il voyait. Amen. On a du mal à dire amen quand on ne comprend pas forcément tout et pourquoi et comment. Et on va voir ensemble qu'à travers ce miracle assez particulier, Jésus va... D'ailleurs, c'est assez étonnant, avant que je continue. Si vous lisez l'ensemble de Jean 9, le miracle tient sur deux versets. Et tout le reste, c'est les gens qui vont essayer d'expliquer le pourquoi du comment, de comment c'est possible qu'il soit guéri. Et ça, c'est assez intéressant de voir que, et on va en parler ensemble, que Jésus va, à travers ce texte, démonter un ensemble de principes et de jugements pour mettre en avant à la fois son autorité, mais aussi sa capacité à rendre la vue à celui qui est aveugle physiquement, mais également spirituellement. On va travailler ensemble ce matin sur la notion de la lumière, sur la notion de celui qui est aveugle et qui retrouve la vue, mais certaines personnes qui pensent voir correctement et qui en réalité sont aveugles. Ça va, vous me suivez? Avant de continuer, j'aimerais juste vous dire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et que cet aveugle soit aveugle de naissance ou pas, qu'il soit aveugle ou qu'il ne soit pas, il n'y a rien et absolument rien d'impossible à Dieu, parce que Dieu est encore capable d'agir aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord avec cette affirmation, je vous invite à mettre dans le chat un petit « Amen » pour dire « Mais oui, Dieu agit encore aujourd'hui. » Amen. À ceux qui sont dans la salle, ils disent « Amen, je vois les têtes qui bougent comme ça, c'est cool. » Et puis de l'autre côté, je voudrais aussi soulever cette problématique, c'est que parfois, par nos raisonnements et nos tentatives de chercher des explications, nous pouvons nous-mêmes nous rendre aveugles face à des situations du quotidien. Nous pouvons nous-mêmes être aveuglés et ne pas discerner, ne pas voir comment Jésus agit dans les vies. Et ma prière, c'est qu'après ce temps de partage, on puisse ouvrir les yeux sur ce qui nous empêche d'avancer. Que nous puissions ensemble progresser vers la lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, on y va pour le texte ensemble. Quelle est la situation? Jésus est sur le chemin, il est en train de marcher, et la Bible nous dit qu'il va s'arrêter près d'un aveugle de naissance. Moi, j'aime quand Jésus s'arrête. J'aime quand Jésus fait un pas et il dit « Ok, je m'arrête sur ta situation ». Et peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu regardes le culte ce matin, mais j'ai envie juste de te dire que Jésus est là, ce matin, présent, et qu'il n'a qu'un seul but, c'est s'arrêter sur ta situation parce qu'il a besoin de te parler. Et si tu as soif, si tu as besoin, si tu as faim de Dieu, si tu as faim de découvrir Jésus profondément, je peux t'assurer qu'au moment où il s'arrête, Jésus agit. Parce que Jésus s'arrête jamais au hasard. Amen. Et je veux vraiment t'encourager. Il y a un exemple, un enseignement pour chacun d'entre nous. Et il va se passer quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'aime les disciples. Parce que des fois, je m'identifie tellement à eux. Parce que nous, on aime tout comprendre. On aime avoir des explications. Alors, les disciples arrivent dans la foulée, portent un regard qui est différent. Et ils posent cette question. Dis-nous, maître. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? On peut se dire, non, mais les disciples, c'est pas eux qui devraient poser ce type de questions. Ils ont bien compris tout, etc. Non, non, c'est bien les disciples qui posent cette question. Et entre nous, combien de fois on s'est posé la question sur l'origine de la souffrance? Si je faisais lever la main à ceux qui sont déjà là, est-ce que vous êtes déjà posé la question sur quelle est l'origine de la souffrance? Et est-ce que on n'a pas très souvent été dans cette analyse de comprendre et d'essayer de mettre des mots et d'essayer de mettre des réalités, de mettre des généralités pour expliquer les situations? Les disciples ne sont pas tellement différents de nous. Ils portent un jugement sur une situation. Pourquoi? Parce que leur jugement passe à un seul filtre, à une grille de lecture. La grille de lecture que les disciples ont, elle n'est pas différente que celle que nous on peut avoir parfois. C'est quand tu lis la Bible, tu vois Adam, tout au début, il pêche, et parce qu'il pêche, il est rejeté. Et la seule grille de lecture que les disciples ont à ce moment-là est celle-ci. Et je dois vraiment dire parfois qu'on est un peu comme ça. J'ai des fois entendu ce genre de phrase. Oui, mais là, t'es malade. Il y a peut-être des choses que t'as pas confessées. Il y a peut-être des péchés qui sont cachés. Et par ça, on arrive et on met des poids de culpabilité sur les gens. Pourquoi? Parce que l'homme a envie de toujours trouver une généralité qui explique une spécificité. Il faut qu'on ait quelque chose de très général pour expliquer une spécificité. Il faut bien le dire parfois, le filtre avec lequel nous utilisons notre analyse va davantage condamner les gens que les aider. Va davantage détruire les gens que les construire. Combien de fois on a eu dans des entretiens, des temps de partage de cœur à cœur, où tu as une personne qui vient te voir et te dit « Mais voilà, bah, je viens confesser mes péchés parce que je suis malade, parce que j'ai péché. » Combien de fois on a entendu des paroles de condamnation, et peut-être c'est ton cas, on t'a donné des paroles de condamnation sur ta vie en te disant t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, et c'est pour ça que t'es dans cette situation. Permettez-moi de citer le commentaire de l'évangile de Jean de Don Carson qui dit « Lorsque le théologien passe de déclarations générales concernant l'origine des maladies humaines à des rapprochements entre péché et la souffrance » d'un individu, ils vont au-delà des données bibliques. Je vous relis. Lorsque les théologiens passent de déclarations générales concernant l'origine des maladies humaines à des rapprochements entre le péché et la souffrance d'un individu, ils vont au-delà des données bibliques. Et bien souvent, on peut avoir, peut-être ça ne vous concerne pas, mais moi je l'ai déjà entendu, bien souvent on peut être les mêmes que les amis de Job. Vous connaissez Job ? Qui, alors qu'il est en train de passer par le plus profond, la souffrance, se retrouve avec des amis qui cherchent absolument à comprendre et à voir quelles sont les fautes que Job aurait potentiellement commises. Le même commentaire de l'évangile de Jean nous dit « Jésus ne désavoue pas l'idée d'un lien général entre péché et souffrance, mais nie farouchement la généralisation de liens particuliers. » Et je crois, et j'en suis persuadé, que parfois nous faisons nous-mêmes des généralisations alors que Dieu ne nous l'a pas demandé. J'aimerais qu'on puisse considérer un moment que les jugements qu'on a portés sur une personne à cause d'une situation, on s'est peut-être trompé. Pourquoi ? Parce qu'on regarde plus la situation que la personne qui est derrière la situation. J'aimerais vous dire que derrière chaque situation de maladie, chaque inquiétude, chaque doute même parfois, il y a une personne qui souffre. Et nous, souvent, notre seul regard, c'est de voir finalement quelle est la situation qui est là, au lieu de voir la personne qui vit la situation. Jésus avait compris cette réalité extraordinaire, et c'est pour ça que j'aime Jésus. Parce qu'il regarde la personne qui a derrière la souffrance. Et il y apporte sa solution. On ne peut pas déclarer que maladie égale forcément péché, ni que souffrance égale forcément quelque chose de caché. Même si parfois Dieu nous parle de certaines façons, on ne peut pas faire des raccourcis trop rapides. Sinon, vous devez m'expliquer la vie de Job. Ce qui est sûr, par contre, c'est que derrière la souffrance, derrière la maladie, Dieu nous enseigne et nous apprend à être encore plus dépendants de lui. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Pendant 4 ans, mon épouse a été complètement bloquée du dos. Et je ne suis pas ici en train de me plaindre. Je suis juste en train de dire, peut-être que j'ai pas compris dans ce moment-là pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que l'expérience que j'ai acquise, et elle aussi, on l'a vécue ensemble. L'expérience qu'on a acquise dans ce moment-là nous a appris à être dépendants exclusivement de la grâce de Dieu au quotidien. Et je veux vraiment vous encourager. J'ai peut-être une parole que j'aimerais dire à quelqu'un qui... Tu t'es fait démonter par une personne. Parce qu'on a fait une analyse de toi simplement à travers des principes et des généralités. Mais Jésus vient te rencontrer dans ta souffrance pour t'amener simplement à en sortir à sa façon. Sois vraiment encouragé. Dans bien des domaines, le plus grand danger, c'est d'appliquer des généralités pour interpréter des spécificités. Et Jésus démontre lui-même ce principe pour montrer qu'il est Dieu qui nous connaît personnellement, qui est présent pour se révéler à nous malgré nos défaillances. Amen. Amen. Alors, moi, c'est dur parce que j'aime bien quand il y a du répondant. Mais je sais que vous êtes là et je sais que derrière votre écran, vous êtes là. Et on bénit Dieu pour le fait qu'on puisse se réunir ensemble. Et vous avez le droit d'écrire plein de amen dans le chat, ça ne me pose pas de problème. Ok, on continue la lecture de notre texte. Jésus, en réalité, va démonter le principe et la question des disciples en disant, Jésus répondit, c'est Jean 9, chapitre 9, verset 3, et il nous est dit, Jésus répondit. Cela n'a pas de rapport avec son péché. Ouh, merci. Ni avec celui de ses parents. Ouh, merci. Mais c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Waouh ! Le but de Jésus, c'est de manifester sa personne. C'est de manifester sa puissance. Le but de Jésus, c'est de se manifester, c'est de montrer que le Fils de Dieu est capable de guérir des maladies qui sont humaines. Le but de Dieu, c'est de montrer que Jésus n'est limité en rien. Et plus que ça, et le verset 4 nous dit, « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus est en train de montrer ici que sa mission, son objectif, est simplement d'apporter la lumière au milieu des ténèbres. C'est ça son objectif. C'est de mettre de la lumière, c'est simplement d'éclairer la notion de ténèbres physiques, mais aussi de ténèbres spirituelles. Ok, on fait une petite pause là entre nous. Vous avez allumé la télé cette semaine ? Trump, Biden, premier sujet. Coronavirus, deuxième sujet. À part ça, et puis après on va parler des autres guerres, etc. En tout cas, dans tous les cas, si vous regardez, il n'y a pas grand chose qui nous montre et qui nous donne envie de rester en vie sur cette terre. Si vous regardez la télé, si vous faites le constat, l'obscurité, elle est partout. Partout. Regardez, enfin, c'est pas moi qui le dis. Et ce qui m'interpelle, c'est que si vous regardez sur les réseaux sociaux, chacun y va de son interprétation. Ah, ça j'aime. Chacun qui nous dit ce qu'il pense de la situation. Wouh ! Et vous savez quoi ? Il y a autant d'avis que de personnes. Alors, comment on tranche ? Mais j'aimerais peut-être juste vous dire que, au lieu de trancher sur l'avis d'une personne, est-ce qu'on pourrait pas trancher sur l'avis de Jésus-Christ? Et de se poser vraiment la question, en réalité, que moi, ce qui m'importe, c'est pas d'essayer de comprendre la situation, ou c'est pas d'essayer de mettre des mots sur des choses que je comprends pas tout de suite, ou que j'ai pas forcément perçu la réalité tout de suite. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de considérer que celui qui ne change pas, celui qui est la lumière, ça sera toujours Jésus. Et ça changera jamais. Jésus restera la lumière. L'obscurité peut être partout, mais Jésus restera la lumière. Quelle est cette lumière ? Celle d'un Dieu qui s'est fait homme pour venir à ta rencontre. Quelle est cette lumière ? Celle d'un homme qui a accepté de s'humilier pour te rencontrer. Quelle est cette lumière ? Celle d'un homme qui, après quelques chapitres de ce qu'on est en train de lire, va accepter de donner sa vie pour que l'obscurité du péché soit chassée par sa lumière. Quelle est cette lumière ? Celle d'un homme qui a accepté de tout abandonner pour t'apporter le pardon de tes péchés. Celle d'un homme qui est mort, mais qui a vaincu la mort et qui a démasqué les ténèbres par sa lumière. Quelle est cette lumière ? celle d'un homme qui est venu pour mettre en lumière ce qui était caché, pour démonter les principes humains et pour les remplacer par des principes divins. Quelle est cette lumière? Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Wouh! Amen. Plus qu'un simple miracle, ce récit nous ramène sur la façon dont Jésus est venu pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont enfermés. Alors, chers amis, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, arrêtez de chercher à mettre votre propre lumière dans chacune des zones d'obscurité dans lesquelles nous sommes. Mais proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette lumière qui met de la lumière dans l'obscurité. Amen. Amen. Ouh, ça me booste, ça m'encourage, vous ne pouvez pas vous imaginer. On continue la suite de notre histoire. On s'est arrêté, Jésus vient de faire une déclaration extraordinaire qu'il est la lumière du monde. Et puis va avoir lieu ce miracle. Après avoir dit cela, c'est au verset 6, Jean chapitre 9, verset 6, après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua aux yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyer. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Jésus va utiliser de la salive et de la boue. Et quand on lit les commentaires, il y a beaucoup d'interprétations pour essayer de comprendre à quoi fait référence quelle chose, la salive, la boue, etc. On ne peut pas forcément tout expliquer, mais ce qu'il faut quand même qu'on comprenne, c'est qu'à l'époque, la salive, comme les autres excrétions humaines, sont considérées comme des souilleurs et vecteurs de maladies. Bon, dans le contexte dans lequel on est, je pense qu'on comprend bien l'histoire de la salive, à mon avis, au sujet par rapport à ça. C'est pour ça qu'on porte ces masques. Et ici, Jésus, va avec sa propre salive, va faire de la boue et guérir l'homme. Jésus, ici, nous montre simplement qu'il n'est pas touché par la maladie. Ce n'est pas la maladie qui impacte Jésus, c'est Jésus qui impacte la maladie. Jésus nous montre qu'il n'est pas limité par les limites humaines, mais qu'il est capable simplement qu'en touchant l'homme, de guérir l'homme du mal. Jésus n'est pas limité par quelconque maladie, ni par des présupposés humains. Il n'est pas limité parce que nous avons défini, il n'est limité par rien. Jésus, ici, à travers cette situation, va défier simplement ce qui est caractérisé comme tabou, comme souillure, pour montrer combien sa puissance et son autorité sont au-delà des lois humaines. Jésus est le Fils de Dieu et n'est pas limité. Et ça m'interpelle de voir combien Dieu utilise des moyens improbables pour guérir. Des moyens que... D'ailleurs, c'est intéressant, vous regardez, Jésus ne guérit pas toujours de la même façon. Pourquoi? Parce que si Jésus guérissait toujours de la même façon, qu'est-ce qu'on ferait? On utiliserait la façon dont Jésus fait et on en ferait des rites. C'est comme ça absolument que ça doit se passer. Mais je vous assure que ce n'est pas une bonne idée de prendre votre salive, de cracher dans la boue et d'aller guérir les gens. Enfin, ben je ne crois pas que ce soit une bonne idée en tout cas. Mais Jésus est capable d'utiliser des moyens improbables pour pas qu'on rentre dans des rituels, mais pour qu'on soit simplement dépendant de lui. Je vous ai déjà partagé cette expérience, c'est ce qu'on a vécu avec mon épouse. Je vous le disais tout à l'heure que mon épouse, pendant 3 ans, 4 ans, elle a été bloquée du dos et on vivait des moments difficiles et on priait pour ça. Et le Seigneur nous disait, ça va arriver, mais on ne sait pas exactement quand. Et c'est alors qu'on apprend la naissance de notre quatrième enfant que pour nous, ça nous met un coup encore plus. Et on se dit, mais Seigneur, purée, elle est déjà bloquée du dos. Ça va être compliqué encore si on rajoute un enfant comme ça. Et c'était pas prévu. Et ça a amené sur notre couple et notre foyer des inquiétudes encore plus importantes. Et alors que on est en train de prier pour ça, plusieurs reçoivent des paroles. Ça sera le bébé de la guérison. Allez comprendre le bébé de la guérison. Allez comprendre ce moyen improbable. Et alors que on reçoit ces paroles, des gens nous parlent et nous encouragent vraiment, nous boostent et encouragent notre foi. Et je bénis Dieu pour les gens qui restent sensibles à la voix de l'Esprit qui leur dit des choses. Et on va voir le spécialiste du dos et le spécialiste du dos direct. On le voit, on lui dit mais écoutez, il faut qu'on vous dise tout de suite quelque chose. C'est que ma femme est enceinte et du coup, faut arrêter tous les traitements qui l'aident aujourd'hui à vivre. Le médecin nous regarde et droit dans les yeux, il nous dit « Mais vous savez, c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée. » Pardon ? Hein ? Oui, pardon. Et il dit « Parce que simplement le fait que le bébé, qu'il y ait un bébé qui arrive, ça va accélérer le processus de guérison. » Ok, d'accord. Il y a un truc biologique qui est en train de se passer au niveau des nerfs, etc. Moi, je n'ai pas tout compris. Je vous promets que j'ai rien compris. Tout ce que je sais, c'est qu'on a arrêté les médicaments On devait le faire progressivement et c'est vraiment beaucoup de sagesse qu'on a fait. On a fait les choses progressivement, mais Lise n'a eu aucun symptôme de dépendance et pourtant c'était des gros médicaments. Et progressivement, on a vu que Lise a été rétablie petit à petit. Et aujourd'hui, elle n'a absolument plus rien au dos. Et c'est une grâce extraordinaire. On avait peur, on s'est dit, oui, mais après la grossesse, qu'est-ce qui va se passer? Non, Dieu nous avait fait des promesses. Et elle n'a plus rien sur le dos. Et c'est fini. C'est une page qui est tournée. On n'est pas meilleur que vous. Mais Dieu est encore capable d'agir et il a utilisé un moyen improbable. Je peux vous assurer que c'est un moyen improbable. Mais Dieu est fidèle et agit encore aujourd'hui. Je voudrais juste vous encourager en vous disant que Dieu nous encourage à marcher non par la vue, mais bien par la foi, même quand on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Jésus va dire à cet homme, « Bon, j'ai fait un truc un peu bizarre, de la salive, de la boue. Maintenant, tu vas silouer, tu vas te laver. Pourquoi ? Il n'est pas guéri tout de suite. » Comme ça arrive souvent, Jésus prie, paf, il est guéri. Et là, Jésus lui dit, mais va silouer. Silouer, ça veut dire envoyer. Qui est l'envoyé? C'est Jésus l'envoyé du Père. Il est intéressant de voir que le pouvoir de guérison ne vient pas de l'obéissance ni du réservoir, mais bien de l'envoyé même. Jésus encourage simplement cet homme à aller se rincer et à marcher, malgré le fait qu'il ne voit pas. Ça vous est déjà arrivé de marcher, même si tu ne vois pas? Ouais, d'accord. Ça vous est déjà arrivé de marcher vraiment par la foi, quand tu ne sais pas ce qui va se faire demain? J'ai envie de vous dire aujourd'hui, vu la situation du monde dans lequel on est, il est vraiment temps que l'Église marche par la foi. Parce qu'on n'a aucune assurance de ce qui va se passer demain. Klaus nous le disait, et Klaus nous le partageait dans son entretien, alors qu'il doit partir dans une semaine, on lui dit non, il ne faut pas que tu y ailles parce que là-bas c'est compliqué. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Et Dieu veut développer à travers ce qu'on est en train de vivre là, une foi qui dit, Seigneur, même si je ne vois pas, je veux marcher parce que tu m'as dit de marcher. Amen. On fait une petite pause? Vous êtes toujours là? On vient de vivre le miracle. On vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, un aveugle de naissance qui miraculeusement, d'une manière improbable, vient être complètement transformé. Sa vie va passer du tout au tout. Ça va être extraordinaire pour lui. Et on pourrait se dire, waouh, tout le monde va se réjouir. Et là, vous avez, alors 41 moins 2, si je ne me trompe pas, ça fait 39. 39 versets qui parlent de comment les gens cherchent à interpréter le miracle. Et j'ai l'impression que c'est tellement notre situation. Tout va basculer à partir de ce moment-là. Les disciples vont poser une première question, puis après les voisins, puis après les parents, puis après les pharisiens. Bref, ça y est, c'est parti pour le débat. Vous êtes prêts à partir à discuter avec moi de ce débat très intéressant? Mais avant qu'on continue, remarquez avec moi quelque chose de très intéressant dans le texte. C'est qu'à partir de ce moment-là, Jésus disparaît du débat. Et on voit réintervenir Jésus que quelques versets à la fin. Très intéressant. C'est intéressant quand même de comprendre que dans notre petit raisonnement humain, il faut toujours qu'on comprenne tout. Parce qu'on a besoin d'être rassuré avec le connu. On peut essayer de donner des explications à tout, mais Dieu nous encourage à marcher par la foi. Alors, revenons à notre débat. Et on va voir plusieurs personnes. Premier groupe de personnes, c'est les voisins de l'homme guéri. Les voisins qui ont l'habitude de le voir tous les jours, qui ont l'habitude de se poser des questions, les questions qui les environnent, est-ce que c'est vraiment lui ou non, ce n'est pas vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment cet homme qui se tient toujours là à chaque fois ou est-ce que ce n'est pas vraiment lui? Est-ce que le miracle a vraiment eu lieu? Est-ce que vraiment Dieu est capable d'agir? Et je dois vous avouer que parfois, moi, je me retrouve un peu comme les voisins de l'homme guéri. Où je vois des situations et je me dis, est-ce que vraiment Dieu est capable d'agir dans cette situation? Et au lieu d'apporter l'éclairage de celui qui est la lumière du monde, j'apporte mon propre éclairage sur la situation. Pourquoi? Parce que j'ai mon regard dessus. Les voisins n'ont qu'un regard. C'est un regard physique de dire, mais je les vois tous les jours, donc c'est pas possible que ça se passe comme ça. Et parfois, dans nos situations, notre propre éclairage vient obscurcir l'éclairage de Dieu, de Jésus, sur nos situations. Le deuxième groupe de personnes qu'on voit, ce sont les pharisiens. Les pharisiens, à l'époque, ce sont eux qui ont l'autorité religieuse. Et l'homme qui vient d'être guéri est amené aux pharisiens pour que les pharisiens puissent, d'une certaine façon, attester le miracle. Alors, c'est important de dire quand même que c'était nécessaire à l'époque d'approuver le miracle par les pharisiens. Pourquoi ? Parce que à cette époque, tous les événements qui ont une signification majeure ou qui ont un événement majeur, on doit y trouver une signification religieuse. On doit le faire valider par les autorités de l'époque. Et c'est logique. D'ailleurs, on n'est pas tellement différent aujourd'hui. Si vous voyez les grosses situations par lesquelles on est en train de passer, on attend que le ministre ou le président fasse une déclaration sur cet événement, c'est-à-dire qu'il donne une direction. Et c'est ce qui est attendu de nos différents gouvernements. Et ici, c'est pas tellement aberrant, et les critiques le disaient, le commentaire de John Carson le dit, on peut pas blâmer les gens d'avoir amené cet homme auprès des pharisiens, c'est pas ça le problème. Mais le vrai problème, c'est que alors que les gens viennent vers les leaders religieux, les principaux religieux, pour avoir une réponse, la seule réponse que vont apporter les pharisiens, c'est des principes et des raisonnements qui prennent le pas sur l'action de Jésus. Au lieu de guider le peuple vers la reconnaissance de Jésus, ils vont guider le peuple vers une méfiance de Jésus. Pourquoi, pour les pharisiens, le problème, c'est le comment du miracle ? Pourquoi ? Parce que d'après eux, le comment détermine le qui. C'est-à-dire que c'est comment tu l'as fait, du coup, ça détermine qui il est. Pourquoi ? Parce que Jésus, au moment où il fait ça, il n'a pas le droit de le faire selon les lois. Donc, ça veut dire qu'il est pécheur. Et on n'est pas un peu quand même comme ça, parfois ? Quand on regarde les gens, on regarde le comment, on voit une situation et on juge une situation en fonction du comment au lieu de voir le qui ? Au lieu de voir la personne qu'il y a derrière ? Quels sont les points de divergence qui posent problème ? Première chose, quand Jésus fait de la boue avec sa salive, il fait du pétrissage. Et dans le texte de la loi, c'est interdit de faire ça le jour du sabbat. Ok. Deuxième chose, le jour du sabbat, on n'a pas le droit de guérir un malade, sauf s'il y a un danger immédiat. Mais là, vu qu'il est aveugle de naissance, il semblerait qu'il n'y ait pas de danger immédiat. Ensuite, le troisième aspect qui pose problème, c'est le fait d'oindre, c'est-à-dire mettre quelque chose sur une personne, c'est-à-dire mettre un collier, quelque chose sur une personne. On n'a pas le droit non plus de le faire le jour du sabbat. Donc Jésus n'a légalement, au sens de la loi de Moïse, n'a légalement pas le droit de guérir cet homme. Premier groupe, première opposition. Et puis, à ça s'oppose un autre groupe qui dit qu'il ne peut guérir que s'il a un pouvoir divin. Puisque seul le pouvoir de Dieu peut guérir un homme aveugle. Et que ce soit le premier raisonnement, c'est-à-dire les trois choses qui font qu'il n'a pas le droit de guérir, et que ce soit ce deuxième raisonnement qui dit « parce qu'il a fait un miracle, c'est donc qu'il est de Dieu », les deux raisonnements sont fondamentalement sans valeur. Pourquoi ? Parce que Jésus le dit lui-même, c'est lui le maître du sabbat. Et de l'autre côté, un miracle, c'est pas parce qu'il y a un miracle que ça veut forcément dire que ça vient de Dieu. Prenez un exemple très, vous connaissez cet exemple classique, hein. Si vous prenez Moïse, vous savez qu'à un moment il va rencontrer Pharaon, et puis il va jeter son bâton va se transformer en serpent, et les magiciens en font autant. Montrant en réalité que c'est pas le miracle qui détermine l'identité de Jésus, qui détermine l'identité de Dieu. Et Jésus est en train de nous montrer qu'à travers un mauvais regard, une mauvaise analyse de la situation, on arrive simplement à des débats stériles. Permettez-moi de vous lire Paul qui parle à Tite. Tite, chapitre 3, verset 8. C'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. On comprend bien qu'il y a la foi, ceux qui ont cru en Dieu, et ensuite il y a la suite qui suit, s'applique à accomplir des œuvres bonnes. Et le verset 9 nous dit « Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. » Et entre nous, parfois, on aurait peut-être tendance un peu à rentrer dans ce type de discussion. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est que les spéculations, les mots et les raisonnements n'amènent qu'à une seule chose, le mépris et le rejet de la personne qui a été guérie. Regardez ce que dit, enfin c'est hallucinant quoi. Moi quand je lis ça, je me dis purée, je voudrais pas être à la place de l'homme qui vient d'être guéri. Jean 9, 34. Comment répondirent-ils ? Depuis ta naissance, tu n'es que péché, des pieds à la tête. C'est toi qui veux nous faire la leçon ? Et ils le mirent à la porte. Si Jésus l'a pas rejeté, eux le rejettent. Oh,
Seigneur, aide-moi à jamais juger les gens de cette façon-là. On a vu les pharisiens, on a vu le groupe des voisins. Parlons un instant des parents. Pourquoi ? Parce que en réalité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, eh bien, comme ils savent pas, ils n'ont pas d'explication, les pharisiens, ils disent, on va appeler les parents. Et les parents arrivent là, et il y a bien effectivement, c'est bien leur fils, ils le reconnaissent, mais ils n'ont aucune explication quant à la raison et le comment de la guérison. On pourrait les blâmer ou on pourrait les accuser, mais la peur d'être mis au banc de la société était plus fort que le fait de reconnaître que leur fils a été guéri. La réalité, c'est juste qu'au lieu que ce soit eux qui soient mis au banc de la société, c'est leur propre fils qui va l'être. Mais là où la grâce de Jésus est extraordinaire, c'est que Jésus, sachant que l'homme a été rejeté, va venir vers lui. Comprenons bien que ce soit les voisins, les pharisiens ou les parents, chacun lit le miracle à sa façon et avec son filtre. Mais au final, aucun ne reconnaît Jésus comme celui qui guérit et qui sauve encore aujourd'hui. Ça va, vous êtes toujours là ? J'arrive à la fin de mon message, enfin presque. Il se passe ce moment où Jésus va venir vers l'homme. Parce qu'il a été rejeté, Jésus va venir vers l'homme. Et la Bible nous dit, c'est le psaume 27. « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » La grâce de Jésus, de celui qui, même si tu es rejeté, vient encore te chercher. Le commentaire de l'évangile de Jean, de Don Carson, nous dit, quand Jésus va venir chercher cet homme, ce commentaire va nous dire, par cette formule, en parlant du Fils de l'homme, Jésus invite l'homme à mettre sa confiance en celui qui est la révélation de Dieu à l'être humain. Jésus est la parole incarnée, celui qui seul révèle Dieu. Voici la raison d'être de ce message. C'est que, à travers ce miracle, Jésus se révèle comme celui qui est le Fils de l'homme, la parole incarnée. Cet homme a eu besoin de rencontrer Jésus personnellement, puis de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. De la même façon dans ta vie, Jésus veut se manifester à toi. Malgré les rejets, malgré tes limites, malgré même tes maladies, il ne cherche qu'une chose, le contact avec toi. Jésus est venu pour que tu vois, pour que là où tes yeux spirituels sont fermés, voilés, tu puisses voir qu'il existe autre chose et qu'il existe un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Amen. À tous ceux qui ont été rejetés ou mis de côté ou jugés ou condamnés, Jésus s'approche de toi. Je termine pour de vrai parce que c'est vraiment comme ça qu'on dit. Et quand on est pasteur, on a trois conclusions différentes et après on a trois demi-conclusions qui sont des demi-conclusions de la demi-conclusion. Mais c'est pas grave, hein, on tient bon au bout d'un moment. Je termine par l'homme qui a été guéri. C'est intéressant de voir l'homme, comment il évolue. Au départ, au verset 11, il appelle Jésus l'homme qui s'appelle Jésus. Puis, ça évolue au fur et à mesure, et au verset 17, c'est sûrement un prophète. On voit cette évolution dans sa connaissance, dans sa rencontre de Jésus. Puis au verset 33, si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Et vous voyez avec moi cette évolution, comment petit à petit il découvre de plus en plus Jésus. Et au verset 36, il répondit, « Qui est-ce Seigneur ? Dis-le-moi, qui est-ce, pardon ? Dis-le-moi Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Et les commentaires disent que le mot « Seigneur » ici, c'est dans le sens de « Monsieur ». On n'est pas encore passé dans un stade encore au-dessus. On est dans le sens « Seigneur, dis-moi Seigneur, c'est qui ce Fils de l'homme ?» Et au verset 38, il nous dit, « Je crois Seigneur. » Et le mot Seigneur ici, c'est curieux. Et c'est dans le sens celui qui est à la seigneurie, celui qui est au-dessus. « Je crois Seigneur !» déclara l'homme et il se prosterna devant lui. Nous voyons ici dans cette analyse, dans ce texte, combien notre propre évolution est semblable à l'évolution de cet homme. Et qu'on a besoin de passer toujours un stade plus loin. Et dire « Seigneur, peut-être que je te vois aujourd'hui comme simplement celui qu'on appelle Jésus. » C'est peut-être la première fois que tu regardes le culte et tu te dis « Moi, je connais celui qu'on appelle Jésus. Et Jésus voudrait t'amener à le découvrir comme celui qui va plus loin, qui vient de Dieu, qui a une parole pour toi. » Peut-être tu te dis, mais moi, je veux voir Jésus qu'à travers des signes, qu'à travers des choses. Et Jésus veut t'amener à comprendre qu'il veut que tu le comprennes comme étant celui qui est ton Seigneur, celui qui est ton Sauveur, celui qui est au-dessus, qui a autorité sur ta vie. On entend parler de lui, on voit ses effets et on reconnaît qu'il vient de Dieu, qu'il y a quelque chose de plus dont on parle tant. Le point qu'on doit voir aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on se situe face à ce qu'on vit au quotidien. Est-ce que tu es comme le disciple, où tu cherches toujours une explication et des principes avec ton filtre, ton jugement sur la situation? Est-ce que tu es comme les voisins qui est là et qui dit « Mais Seigneur, face à ma situation que je suis en train de passer là, j'ai besoin de le comparer à de l'existant pour être assuré ?» Est-ce que tu es comme les pharisiens qui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu le remets en question parce que ça ne correspond pas à ta conception des choses de la vie? Est-ce que tu es comme les parents qui préfèrent ne pas se positionner par rapport au regard des autres? Ou est-ce qu'on ne doit pas être un peu comme cet homme qui ne comprend pas forcément tout, mais qui évolue progressivement pour arriver à ce que Jésus soit son Seigneur et Sauveur? Je crois que toute la différence sera le regard que tu vas porter à celui qui est sur la lumière. Toute la différence se passera quand tu verras la différence, quand tu vas commencer à te dire « Seigneur, je veux me tourner vers la lumière, celui qui est seul capable d'éclairer ma vie. » J'aimerais illustrer mes propos et conclure avec cette image. Je ne sais pas si je vais choquer personne, mais je voudrais qu'on éteigne toutes les lumières. Donc ça va vous faire bizarre, mais il n'y a pas un bug sur votre écran. Vous inquiétez pas, c'est volontaire. D'accord ? Et on va éteindre toutes les lumières. Et merci à l'équipe technique qui me suit là-dessus. Cette fois, je leur fais des grosses transpirations parce que, voilà, on éteint toutes les lumières. Tu peux même éteindre celle-ci aussi, c'est top. Super, 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 super. OK. Et alors que tout est éteint, si je reste dans ma zone d'obscurité, et vous le voyez, vous, derrière votre écran, ou vous ne le voyez pas des masses, d'ailleurs, vous vous rendez compte que je peux continuer à marcher, mais je marche moins bien. Et si vous voyez sur votre écran, il y a une zone de lumière dans notre scène. Elle est là-bas. Et regardez avec moi cette image qui est extraordinaire. C'est que plus tu vas t'approcher de la lumière, okay, plus ton visage va rayonner. Plus les zones d'ombre de ton visage vont disparaître. Plus les zones d'ombre de ton cœur vont disparaître. Plus tu vas t'approcher de cette lumière, cette source de chaleur, plus tu vas vivre quelque chose avec Dieu parce que Dieu va travailler l'intérieur de ton cœur. Plus tes raisonnements vont être brûlés à la lumière de la vision divine. Plus ta façon de penser va disparaître, simplement parce que c'est lui qui va impacter ta vie. J'ai même envie de dire, et vous ne le voyez pas d'ici, mais plus tu regardes la lumière et moins tu vois l'obscurité. Et une autre image qu'on peut tirer aussi, c'est quand tu es face à la lumière, ton obscurité, elle est derrière toi. Tes zones d'ombre, tes zones d'inquiétude, tes zones de doute, tes zones de peur, tes zones d'incompréhension, elles sont derrière toi. Le plus grand danger dans la vie chrétienne, c'est de faire ça. Et de commencer à remarcher dans tes zones d'ombre, dans tes principes, dans tes raisonnements, et de laisser la lumière de Jésus derrière. Mais ce que Jésus veut t'amener à vivre aujourd'hui, c'est simplement dire peut-être, Seigneur, j'ai mis des principes, j'ai mis des raisonnements, j'ai mis des explications, je ne comprends pas. Je veux juste me tourner, juste faire demi-tour, je veux juste commencer. Et c'est progressif, c'est comme la découverte de cet homme, c'est progressif. Et plus tu tournes vers Dieu, plus tu te rapproches de la lumière, plus les zones d'ombre de ta vie disparaissent. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Si on peut me rallumer la lumière, ça serait super gentil, merci. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie. Mais je ne voudrais pas que tu quittes ce moment en étant rempli de principes, en étant rempli de raisonnements, en étant rempli d'analyses ou de jugements sur ta situation. Mais je voudrais vraiment que tu puisses saisir ce matin qu'à travers le miracle de cet homme, peut-être qu'aujourd'hui tu es aveugle spirituellement. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Peut-être que physiquement tu es comme cette situation d'aveuglement où tu dis « mais je vois rien ». Dieu veut t'ouvrir les yeux. Ou peut-être tu te dis « mais ça ne me concerne pas parce que moi je n'ai pas de problème ». Ben, je te le dis, tu es aveugle. Le texte ici est clair, la conclusion de Jésus, elle dit « je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Tu peux choisir de garder ton filtre ou décider de te repositionner en tant qu'aveugle qui a besoin de Jésus. Et même si tu ne comprends pas tout, je suis sûr que Dieu t'éclairera, car il est la lumière du monde. » J'aimerais pouvoir prier pour vous. Et je vais demander à l'équipe de louanges de pouvoir s'approcher. On va prendre un dernier chant ensemble. Seigneur, on est devant toi. Bien souvent, on a été comme peut-être ses voisins, ses pharisiens, peut-être comme ses parents. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où on a porté un jugement trop hâtif sur les situations, parce que c'est notre filtre qu'on a utilisé. Seigneur, je veux te demander pardon toutes les fois où, alors que quelque chose était devant nos yeux, alors qu'il y a eu peut-être un miracle, on a douté, ou on a oublié le miracle que tu as fait. Mais ce que je sais, c'est qu'encore ce soir, ce matin, tu viens nous rejoindre dans notre réalité. Comme cet homme qui a été rejeté par plein de personnes, toi, la Bible nous dit que tu vas le retrouver, tu vas le rencontrer. Ce matin, on vient à cette rencontre, on vient dans ce cœur à cœur avec toi, parce qu'on a besoin d'expérimenter la lumière de Christ sur nos vies. Je te prie pour tous ceux qui vivent dans des situations compliquées, afin que ta lumière vienne mettre, vienne faire disparaître les obscurités. Là où il y a des blocages, tu viens de mettre ta lumière. Seigneur, tu vois la situation géopolitique dans laquelle on est, tu vois les souffrances que ça implique, tu vois peut-être les peurs, les inquiétudes. Tu vois toutes nos personnes malades, ceux qui passent par ce moment compliqué face à ce virus et cette obscurité qui est en train d'environner le monde. Seigneur, donne-nous ensemble, avec l'Église, de nous tourner vers Jésus. De dire que Jésus est plus important que le virus, Jésus est plus important que la situation géopolitique, parce que Jésus est la lumière du monde. De la même façon, donne-nous de porter ta lumière, là dans les lieux de ténèbres dans lesquels nous nous trouvons. Je te prie que là, dans chaque zone dans laquelle on est, tu puisses nous utiliser comme le reflet de ta lumière, parce que tu as déposé le Saint-Esprit en nous. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont dans des zones où c'est compliqué. Je te prie qu'ils soient la lumière, parce que c'est à ça que tu nous appelles. Je te prie qu'on puisse briller ensemble, que l'Église de l'Épi puisse briller dans ce monde des ténèbres, non pas à cause d'analyse, mais à cause de celui qui nous fait briller, Jésus-Christ. Sauveur et Seigneur. Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour nous, pour que nous puissions briller. Je veux bénir toutes ces personnes qui regardent encore en ce moment et que tu puisses encore les encourager, les booster, leur faire du bien. Merci parce que, oui, nous voyons sept signes qui stimulent notre foi et nous voulons être stimulés. Jésus est la lumière du monde. Merci Jésus. Amen.
Des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre. En toi, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je
pouvoir sont en toi. Et comme on l'a entendu ce matin, Seigneur, tu es la lumière vers laquelle nous voulons encore avancer et marcher. Tu es la lumière du monde, Seigneur. En toi, il n'y a pas de ténèbres. Et merci de ce que tu envoies ta lumière sur tous ceux et celles qui veulent se laisser illuminer par toi, Père. Merci, Seigneur, encore pour ta grâce à notre égard. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, Jésus. Amen. Voilà, notre culte s'achève. On veut vous souhaiter à tous et à toutes une excellente semaine. Gardez ce que vous avez reçu ce matin sur vos cœurs. Bonne semaine à chacun et à bientôt.